Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle autant de conditionnement et de déconditionnement. Eh bien, je vous réponds aujourd'hui en vous dévoilant par quel déconditionnement j'ai dû passer douloureusement entre l'âge de 18 et 23 ans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi qui aura un ton un peu différent de ce que j'ai proposé les semaines précédentes et de ce que je proposerai dans les semaines suivantes. Et j'ai eu envie de faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que en lisant tous les commentaires que vous m'avez laissés sous mes différentes vidéos consacrées au conditionnement et au déconditionnement, je me suis rendu compte qu'en fait vous êtes nombreux à ne pas connaître mon parcours de vie, à ne pas connaître ce qui m'anime depuis plus de 30 ans en tant que formateur, en tant que conférencier, en tant qu'auteur de livres. Et beaucoup d'entre vous, vous vous posez des questions sur mais quelles sont mes intentions à moi, Jean-Jacques Crèvecœur, à vous entretenir sur ce thème du conditionnement, à vous inviter à sortir des conditionnements trop étroits pour entrer dans des perspectives de vie beaucoup plus larges. Et je me suis dit que finalement, ce qui manquait dans cette conversation, c'est justement les bases d'une conversation. Les bases d'une conversation, c'est que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, eh bien, on prend le temps de se présenter, on prend le temps de dire voilà ce qui m'anime, voilà quelles sont les valeurs qui font que je me lève tous les matins et que je fais ce que je fais depuis aussi longtemps. Et du coup, j'ai eu envie de vous partager en toute simplicité, et donc vous voyez qu'ici, il n'y a pas de mise en scène, je ne suis pas tout nu dans mon étang, je ne suis pas au volant d'une décapotable sur des chemins merveilleux de ma région ici au Québec. J'avais juste envie d'être assis dans mon fauteuil au soleil et de vous faire part de mes désenchantements et de mes prises de conscience, de vous faire part de tout ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur un nombre incalculable de conditionnements dans lesquels j'étais moi-même enfermé entre l'âge de 18 ans et 28 ans. Donc je vais me limiter dans cette vidéo d'aujourd'hui à ce que j'ai vécu comme éveil de conscience entre 18 et 28 ans, et ça vous permettra peut-être d'avoir un avant-goût des différentes thématiques que je vais développer tout au long de cette année, où je prendrai le temps de développer de façon très argumentée, très documentée et très approfondie pourquoi nous devrions peut-être remettre en question certaines des évidences qui nous paraissent indubitable pour l'instant. Je vous disais dans une des premières vidéos, méfiez-vous des évidences parce que ce qui nous paraît évident, très souvent, ce sont des conditionnements extrêmement pernicieux, d'autant plus pernicieux qu'ils sont invisibles et que nous ne les voyons pas nous séparer du monde réel. Alors, pour faire ce partage en forme de confidence, je dirais que d'abord, je suis belge, ça vous le savez, je suis né en 1961, donc si vous calculez, au moment où j'enregistre cette vidéo en 2019, j'ai 58 ans, je sais, je ne les fais pas, merci. Et j'ai grandi dans un milieu que je qualifierais de bourgeois, très conservateur, milieu catholique, et j'étais vraiment enfermé dans un nombre incalculable de bocaux. Comme le poisson rouge étant fermé dans son bocal, ben moi il y avait plein de bocaux. Je me souviens que mes parents m'interdisaient d'aller jouer avec les gamins de la rue, donc m'obligeaient à rester dans le jardin avec mon frère pour jouer dans le jardin, et je n'avais même pas le droit d'inviter des copains ou des voisins pour venir jouer parce que ce n'étaient pas des gens du même milieu que nous, alors que franchement ma famille était une famille petite bourgeoise qui n'avait rien de particulièrement intéressant. J'ai grandi dans l'église catholique aussi, où je me suis engagé comme enfant de chœur d'abord, puis membre de la chorale, puis je suis devenu organiste de la paroisse où j'ai grandi. Et quand j'ai commencé mes études universitaires à partir de l'âge de 18 ans, je suis devenu responsable de la paroisse étudiante. J'ai été animateur des chants dans une paroisse de Namur en Belgique. Donc très très engagé dans l'Église catholique. Et j'étais dans un milieu où finalement seul comptait la réussite sociale, seul comptait la sécurité matérielle, seul comptait le fait de gagner de l'argent le plus possible et de pouvoir se sentir supérieur par rapport au monde. Je n'avais absolument aucune conscience de ce qu'était le vrai monde. Donc j'étais vraiment enfermé dans des bocaux. Et tous ces bocaux ont commencé à exploser les uns après les autres à partir de l'âge de 18 ans. À 18 ans, je suis parti faire des études de physique à l'université de Namur en Belgique. Et j'ai eu l'extrême chance et l'extrême privilège d'avoir un cours de philosophie des sciences et de critique des sciences en première année d'université. Et pour cela, j'ai énormément de reconnaissance et de gratitude pour cette université jésuite qui tenait malgré tout à ce que les scientifiques aient une conscience éthique et une conscience morale. Et donc j'ai bénéficié d'un cours animé par Gérard Fourré, qui était un jésuite lui-même, un jésuite tout à fait marginal, qui avait écrit un livre « Choix éthique et conditionnement social » et qui m'a révélé brutalement, et pour moi ça a été vraiment une déverrouillée et une gifle absolument extraordinaire, qui m'a fait comprendre preuve à l'appui et démonstration à l'appui pendant un trimestre complet d'université, d'études universitaires. Il m'a fait comprendre à quel point la science n'était pas la recherche désintéressée du savoir pour l'amour de la connaissance et l'amour du savoir, que la science en fait était au cœur et au carrefour d'enjeux économiques, d'enjeux militaires, d'enjeux politiques, et que finalement la science n'était qu'au service d'enjeux qui la dépassaient complètement, à l'insu des scientifiques eux-mêmes, et qu'un certain nombre de scientifiques n'hésitaient pas à falsifier leurs résultats pour continuer à avoir des subventions venant du monde économique ou du monde militaire. Ça, pour moi, ça a déjà été une première gifle, un premier désenchantement, une première perte d'innocence, parce que je pensais sincèrement que la démarche scientifique était une démarche qui était totalement dénuée d'intérêt sur le plan personnel. Dans la même année, j'ai découvert la réalité du tiers-monde et du quart-monde. Le tiers-monde, je n'en avais jamais entendu parler parce que j'étais tellement enfermé dans mon milieu bourgeois que je n'avais pas pris conscience que deux tiers de la planète vivaient sous le seuil de la pauvreté. Je n'avais pas pris conscience non plus de l'origine du tiers-monde, parce que les rares fois où j'entendais parler des pauvres petits Africains, des pauvres biafrais, bon, pour ceux qui ont à peu près mon âge, vous vous souvenez peut-être de ce drame qu'on nous montrait à la télévision des biafrais, le Biafra qui est un pays qui n'existe même plus aujourd'hui, qui était situé dans l'ouest de l'Afrique. Mais quand on me présentait ça, moi j'avais le sentiment que si les Africains crevaient de faim, c'était soit une fatalité, soit c'est parce qu'ils ne se bougeaient pas le cul pour cultiver leurs terres et que finalement, c'était, quelque part, c'était bien fait pour eux. Et là, j'ai découvert, grâce à des conférences que je suivais tous les jeudis à l'université, que le phénomène de paupérisation des pays qu'on appelait les pays du tiers-monde, c'est-à-dire essentiellement les pays d'Afrique, les pays d'Asie, certains pays d'Amérique latine, était finalement le résultat de la colonisation, était le résultat du fait que nous, les pays occidentaux, qui étions des pays riches, nous avions construit notre richesse sur le pillage systématique des ressources naturelles qui se trouvaient dans ces pays pauvres, et que malgré la décolonisation, ben finalement, la décolonisation n'avait strictement rien changé à la situation, puisque on avait mis en place des structures qui étaient destinées à regrouper les richesses dans un minimum de mains. Et donc là, pour moi, ça a été des gifles, parce que tous les jeudis midi, je suivais des conférences données par des témoins qui étaient acteurs sur les terrains des pays du tiers-monde. Et c'est là que j'ai vraiment ouvert les yeux sur le fait que notre richesse en tant que pays occidental en tant que pays riche, les pays du premier monde, hein, puisque c'est de là que vient la notion de tiers monde. Le premier monde, c'était les pays occidentaux. Le deuxième monde, c'était les pays du bloc communiste. Le troisième monde, c'était tous les pays pauvres. Et puis, il y a eu cette notion de quart monde, de quatrième monde. Le quatrième monde, c'était les pauvres des pays riches. Et là aussi, ça a été pour moi... Un autre désenchantement, une autre prise de conscience, une autre perte d'innocence, c'est de me rendre compte que la pauvreté était structurelle. La pauvreté était rarement le fait de comportements individuels, était rarement le fait de la fainéantise ou du manque d'esprit d'entrepreneuriat de la part des gens, qu'il y avait vraiment de façon systémique et de façon structurelle des choses qui étaient mises en place pour entretenir la pauvreté des pays du tiers-monde, la pauvreté des gens du quart-monde. Et un peu plus tard, donc là nous sommes en 1982, je me marie, je suis en quatrième année d'université, je me marie et 3 mois après mon mariage, je suis en instance de divorce avec ma première femme, Ananou Tiran. Et pour moi, ça a été encore un choc énorme, ça a été une gifle énorme, parce que là, je me suis rendu compte à quel point entretenir des relations saines, respectueuses, authentiques, c'était quelque chose qui n'allait pas de soi. C'était quelque chose qui demandait un véritable travail sur soi, qui demandait à remettre en question nos façons d'être les uns avec les autres. Et pour moi, là aussi, ça a été un énorme déconditionnement de me dire que ce dont j'avais hérité de la part de ma famille, de la part de mes parents comme modèle comportemental, comme modèle relationnel, n'était peut-être pas la seule façon et la meilleure façon d'entrer en relation les uns avec les autres. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur moi, c'est là que j'ai commencé à faire une première démarche psychanalytique et puis une deuxième démarche psychanalytique, de commencer à investir beaucoup de mon temps et de mon argent à travailler sur moi, à remettre en question un certain nombre de paradigmes qui étaient ceux que je considérais sans aucun doute comme étant la vérité absolue. Quand j'ai commencé mon doctorat en physique quantique théorique, un an plus tard, je me suis rendu compte en allant suivre une conférence consacrée au sujet de recherche sur lequel je travaillais à l'époque, que sans le savoir et sans le vouloir, j'étais en train de travailler sur des composants électroniques qui servaient à la mise au point des systèmes de guidage des missiles intercontinentaux américains, contre lesquels, par ailleurs, je manifestais en tant qu'activiste pacifiste. J'étais objecteur de conscience, j'étais activiste pacifiste. J'ai manifesté à toutes les manifestations antinucléaires et antimissiles en Belgique au début des années 80. Et ce qui était complètement fou, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que 40 heures par semaine, je travaillais à des recherches fondamentales sur certains semi-conducteurs qui étaient l'arsénure de gallium dopé au silicium, qui étaient financés, donc mes recherches étaient financées par l'armée américaine parce que ça les intéressait d'avoir des semi-conducteurs qui étaient opérationnels entre moins 50 degrés et plus 120 degrés. Or, comme vous le savez peut-être, des missiles intercontinentaux volent à des altitudes extrêmement élevées et donc descendent à des températures extrêmement basses. Et donc, il faut pouvoir guider ces euromissiles, il fallait pouvoir guider ces missiles intercontinentaux avec des semi-conducteurs qui ne vous lâchent pas en plein milieu du trajet. Donc, ça intéressait l'armée américaine. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce que certains épistémologues appellent le prolétariat de la science. Le prolétariat de la science, c'est un peu comme Charlie Chaplin dans Les Temps modernes, où nous sommes, nous les scientifiques, des milliers à travailler chacun sur un sujet extrêmement pointu, extrêmement restreint, et pour lequel nous n'avons aucune vision d'ensemble de ce que signifie le projet auquel nous travaillons à notre insu. Et donc, quand j'ai découvert cela, alors que j'avais des affiches pacifistes et anti-nucléaires qui tapissaient les murs de mon bureau, bien entendu, vous avez bien compris que j'ai donné ma démission 15 jours plus tard et j'ai quitté mon doctorat en sciences parce que je me rendais compte que je n'étais pas en accord avec ces valeurs. Mais c'est là où je me suis rendu compte à quel point nous, les scientifiques, parce que c'est ma formation de base, nous sommes manipulables et manipulés par les orientations politiques et militaires et que nous travaillons finalement, nous consacrons parfois toute notre vie à des projets dont nous n'avons aucune idée de la finalité. Qu'est-ce que j'ai encore découvert? Ben, c'est à cette époque-là que un de mes amis a mis entre mes mains les ouvrages de Carlos Castaneda. Et Carlos Castaneda, qui était un anthropologue américain, a fait part dans toute une série de livres de ses expériences et de ses rencontres avec un chaman du nord du Mexique, un chaman Yaqui. Et il faisait part de toutes ces expériences générées à l'aide de champignons magiques, d'herbes magiques et de peyote, entre autres. Et en lisant Castaneda, il m'a fallu plusieurs années pour lire Castaneda parce que mon mental résistait de façon incroyablement forte, parce que j'étais quelqu'un à l'époque d'extrêmement rationaliste. C'est pas pour rien que j'ai choisi les études les plus difficiles dans le monde de la science, qui est le monde de la physique et le monde de la physique quantique en particulier. Et donc là, je découvrais que la réalité ne se limite pas au monde visible, au monde tangible, au monde appréhendable avec nos cinq sens, si vous voulez, et qu'il est possible d'accéder à d'autres types de réalités, qu'il est possible d'entrer en contact avec l'esprit des plantes, avec l'esprit des animaux totems, qu'il est possible de faire des voyages astraux, qu'il est possible de se déplacer instantanément sur des centaines ou des milliers de kilomètres, comme Castaneda en a fait l'expérience. Et pour moi, ça a été véritablement une explosion nucléaire à l'intérieur de mon esprit, parce que c'est là que je me suis rendu compte que le monde de la science et que notre paradigme rationaliste nous avait enfermés dans des conditionnements qui nous limitaient à ce qui peut être appréhendable et accessible à nos cinq sens, nos cinq petits sens limités, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Donc ça aussi, ça a été un fameux déconditionnement pour moi, et ça m'a pris des années avant d'accepter qu'il puisse exister d'autres réalités que celles auxquelles nous avons accès scientifiquement, entre guillemets. Et c'est là que j'ai remis complètement en question même la validité de la seule démarche scientifique. Je ne dis pas que la démarche scientifique n'est pas valide, mais que baser toute notre conception de la réalité sur la démarche scientifique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement limitant et quelque chose qui nous empêche d'évoluer, nous, les êtres humains. C'est un peu plus tard que j'ai découvert l'homéopathie parce que en 1984, donc j'avais 23 ans, je souffrais de sinusite chronique 8 mois par an, et ça faisait 7 ans que je souffrais de sinusite chronique 8 mois par an, où j'étais congestionné. J'avais essayé toutes les solutions qui m'étaient proposées par la médecine allopathique, que ce soit la cautérisation des sinus à plusieurs reprises, les inhalations, les médicaments, etc., etc., et rien ne s'améliorait, et j'étais extrêmement affecté par cela. Et on m'avait dit en médecine, écoutez, on ne pourra rien faire pour vous, vous devrez apprendre à vivre avec cette maladie jusqu'à la fin de vos jours, désolé, mais on ne peut rien pour vous. Jusqu'à ce que je rencontre une femme médecin qui était une de mes amies, qui m'a dit, écoute Jean-Jacques, honnêtement, effectivement, la médecine classique, la médecine orthodoxe, la médecine hospitalière ne peut rien faire pour toi. Mais si je n'étais pas conscient des limites de la médecine, je te dirais, ben, prends ton mal en patience. Je suis un petit peu consciente des limites de la médecine, et peut-être ce serait intéressant que tu ailles voir vers d'autres médecines, comme par exemple l'homéopathie ou l'acupuncture. Peut-être qu'eux peuvent faire quelque chose pour toi, mais je n'en sais rien, je ne connais rien. Et donc, cette femme m'a donné la permission, et j'ai énormément de gratitude pour elle, cette femme m'a donné la permission de sortir du conditionnement de la médecine toute puissante et de la médecine classique, de la médecine allopathique, pour découvrir l'homéopathie. Alors, comme j'étais scientifique quand même, j'ai demandé à un de mes grands amis qui connaissait l'homéopathie de me conseiller d'abord des livres consacrés à l'homéopathie, et j'ai lu deux livres de Vitulkas, dont je vous laisserai les coordonnées sous cette vidéo, qui s'appelait entre autres « La science de l'homéopathie » Et là, en tant que scientifique, j'ai vraiment essayé de comprendre les fondements véritables de l'homéopathie et pourquoi l'homéopathie pouvait prétendre de marcher. Et avec ma formation de physicien quantique, évidemment, j'ai fait tout de suite les liens qui existaient entre physique quantique et homéopathie. D'ailleurs, par la suite, j'ai donné des cours de physique quantique à des homéopathes et à des ostéopathes pour leur expliquer en quoi l'homéopathie pouvait être tout à fait justifiée et justifiable par la vision de la physique quantique. Donc, ben ça, c'est une parenthèse qui me mène trop loin. Et donc, par la suite, j'ai été voir un homéopathe qui m'a demandé, Monsieur Crèvecœur, quelle est la couleur de vos urines lorsque vous vous levez le matin ? J'en sais rien. Et quelle est la couleur et l'odeur de vos selles ? J'en sais rien. Est-ce que vous croyez que je regarde ça ? Et à quel moment de la journée est-ce que vous vous sentez le plus fatigué ? J'en sais rien. Et quelle est l'odeur de votre transpiration ? J'en sais rien. Et est-ce que quand vous avez froid ou vous avez chaud, est-ce que vous êtes plutôt amélioré ou plutôt aggravé lorsque vous êtes atteint d'une sinusite ? Je n'en sais rien, etc. En fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais été incompétent dans l'observation de mes propres symptômes, dans l'observation et dans l'écoute de mon propre corps. Et donc, j'ai eu une très très grande leçon avec cet homéopathe parce qu'il m'a renvoyé de son cabinet en me disant « Écoutez, vous allez me payer la consultation aujourd'hui et vous reviendrez dans quelques semaines lorsque vous serez capable de répondre à ma question. » Et pour moi, ça a été une gifle de nouveau de me montrer à quel point j'avais confié la responsabilité de ma santé à d'autres personnes que moi-même et que finalement... J'étais totalement incompétent pour prendre en main ma propre santé. Je suis revenu quelques semaines plus tard et là j'étais devenu incollable sur la couleur de mes urines, sur la couleur et l'odeur de mes selles, sur l'odeur de ma transpiration, sur la manière dont ma langue était chargée ou pas, etc. etc. Et ce jour-là, il m'a donné une explication que j'ai trouvée absolument étonnante. Il m'a dit... Si vous êtes atteint de sinusite, c'est parce que votre foie fonctionne mal. Et comme votre foie, c'est un organe d'élimination des toxines de votre corps, comme votre foie, qu'on appelle un émonctoire, ne fonctionne plus bien parce qu'il est trop engorgé à cause de vos habitudes de vie alimentaire, à cause de l'alcool que vous buvez de temps en temps, à cause de l'excès de viande que vous mangez, eh bien... Le corps est obligé de faire appel à d'autres voies d'élimination des toxines et un des émonctoires secondaires, ce sont les sinus. Il me dit, on va aider votre foie en changeant votre alimentation et puis moi je vais aider votre foie à se dégorger, mais si vous ne faites rien pour changer votre alimentation, vous n'arriverez à rien au niveau en termes d'amélioration de votre santé. J'ai pris un traitement de fond en homéopathie. Et trois semaines plus tard, je n'avais plus aucun symptôme. Et depuis lors, ça se passe donc en 1984-85, depuis lors, je n'ai plus jamais eu un seul symptôme de sinusite. Et deux ans plus tard, après avoir travaillé sur mes émotions, après avoir changé radicalement mon mode d'alimentation, je me suis rendu compte que la maladie, je ne connaissais plus cela. Alors je me rends compte qu'il est déjà, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, donc je continuerai ce partage que j'avais envie de vous faire à travers la vidéo de la semaine prochaine parce que je trouve trop important de vous donner des exemples très concrets de où peuvent se loger tous nos conditionnements totalement à notre insu. Et en même temps, je veux que vous compreniez que si je suis devenu formateur, si je suis devenu conférencier, si je suis devenu auteur, si je prends le temps de vous partager tout cela gratuitement, si je prends le temps de vous former, de vous informer depuis toutes ces années de façon gratuite à travers ma chaîne YouTube, à travers ma page Facebook, c'est parce que lorsqu'on découvre des trésors comme cela, lorsque je découvre à quel point sortir des conditionnements dans lesquels j'étais, ça a changé radicalement la qualité de mon existence sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, je ne peux pas ne pas vous partager ce que je porte à l'intérieur de moi comme richesse et comme découverte. Et c'est pour cela que je fais ce que je fais. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre avec vous ces confidences à propos de mon parcours de vie et à propos de tous les premiers déconditionnements que j'ai découverts entre l'âge de 18 et de 28 ans.